France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Comme le rappelle si bien ce bon vieux Platon, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Il serait difficile de contredire Kant quand il écrit que la musique est la langue des émotions. Que serait une vie sans musique? Pour nombre d'entre nous, il existe un lien entre les musiques qu'on écoute, les musiques de notre vie et nos souvenirs personnels. Comme le rappelle notre invité, le neuropsychologue Hervé Platel, de nombreux moments aux périodes clés de notre existence sont rattachés à des musiques particulières, des musiques qui constituent des jalons de notre mémoire autobiographique. Comme l'odorat, la musique détient le pouvoir extraordinaire de nous remémorer des émotions passées. Des recherches montrent par exemple qu'il est possible d'utiliser la musique pour prendre en charge des patients malades d'Alzheimer. Nous verrons également pourquoi la musique nous redonne un regain d'énergie et réduit la douleur quand nous courons, par exemple, aide à réduire l'anxiété, contribue à nous mettre en joie, à apaiser les moments de tristesse, même quand on écoute un morceau triste. Nos invités, Hervé Platel et notre André Manoukian national, attendent vos questions et vos réflexions au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000. Racontez-nous quel rôle joue la musique dans votre vie, pourquoi elle vous a aidé à certains moments de votre existence et quelle est la bande-son de votre vie. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Vous, je sais que c'est Led Zeppelin, hein?
Notamment,
oui. Notamment, ouais. Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Eh bien, si la musique fait du bien à nos enfants, que faire s'ils ont des goûts de chiottes?
Ah ben, ça promet. Allez, bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Bonjour André Manoukian,
allez.
Auteur, compositeur, pianiste, arrangeur, chroniqueur dans l'émission Bel et Bien sur France 2. On vous doit également les chroniques sur les routes de la musique et sur les routes du jazz. Et vous publiez chez HarperCollins un excellent livre, très bien écrit, très bien documenté, chez HarperCollins et France Inter, Les pouvoirs extraordinaires de la musique. La musique qui nous plaît, André, c'est une histoire de bonnes vibrations. Comment expliquer que les bonnes vibrations musicales produisent des ondes de plaisir dans notre corps et dans notre cerveau? L'effet du son est à la fois spirituel et physique.
Alors le son, c'est à la fois spirituel, physique. C'est le paradoxe de la musique, c'est qu'il y a de la spiritualité, et il y a de l'éros. Donc moi, en tant que musicien, c'est ce qui m'a toujours passionné. Quand j'ai découvert que la gamme a été inventée par un moine au XIe siècle, il y a toujours une emprise du religieux qui dit on va essayer de mettre de l'ordre dans le bordel là, hein, parce que la musique, ça vous fait faire des trucs. Vous avez cité Platon, mais Platon, il aime pas vraiment la musique.
Oui, c'est vrai.
Il aime pas vraiment la musique parce que, et les philosophes en général n'aiment pas vraiment la musique. Pourquoi? Parce que la musique, elle produit directement des sentiments sans passer par le cerveau. Donc pour le coup,
votre bon vieux Nietzsche aime la musique.
Alors il aime la musique. Je vais vous dire la vérité. Une fois, je suis rentré dans une excellente librairie et j'ai dit donnez-moi le livre d'un philosophe sur la musique. Le gars me dit il y en a pas. J'ai dit quoi? Mais Nietzsche, il a écrit 2 pages. En plus de ça, la musique qu'il faisait lui, elle était pas terrible. C'est pour ça qu'il s'engueule avec Wagner, parce que, bref. Et tout d'un coup, il réfléchit, il dit Jean Kelevitch. Donc, cher Ali, je veux en profiter pour recommander cet ouvrage excellent qui s'appelle La musique et l'ineffable de Vladimir Jean Kelevitch, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup éclairé. Mais le paradoxe de la musique, encore une fois, c'est que c'est des sensations sans rationalité.
André Manoukian, nous avons tous une fréquence propre qui nous fait vibrer. Corps et âme.
Ouais, il faut que je vous ausculte, Ali, mais je vais pas le faire tout de suite. C'est normal, on n'écoute pas la musique qu'avec les oreilles. Tout notre corps rentre en vibration comme d'habitude, on s'en est aperçu, on a affiné même la fréquence de certains de nos organes, notamment de nos viscères, en voulant mettre au point des tortures sonores. C'est incroyable comment on arrive à avoir de l'argent dès qu'il faut produire des armes. Par contre, quand il faut faire du bien, un tout petit peu moins. Nous avons tous des corpulences différentes, donc nous réagissons tous différemment par rapport à des vibrations. C'est tout bête. Après, il y a de la culture. Pour répondre à votre question tout à l'heure, comment faire quand nos gosses ont des coutiottes, il faut juste les éduquer.
Bonjour Hervé Platel.
Bonjour.
Vous êtes professeur en neuropsychologie à l'université Caen Normandie. Vous êtes l'un des tout premiers à avoir utilisé la technique de la neuroimagerie pour étudier les effets de la musique sur le cerveau. Et vous avez contribué au livre Musique, Science et Santé publié chez Duno. Alors André Manoukian, dans son livre, écrit que l'un des pouvoirs les plus extraordinaires de la musique, c'est celle qui nous connecte à notre intimité tout en faisant ressentir l'ineffable. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis complètement d'accord. Et pour continuer sur ce que vient de dire André, clairement, la musique, c'est quelque chose d'invisible, mais en même temps de très physique. Mmh. Et c'est ça qui est assez étonnant, mystérieux. En fait, la musique, c'est une sorte d'alchimie. C'est comment on prend quelque chose, un matériau, et qu'on le transforme en quelque chose de spirituel, parce qu'on le transforme en fait en pensée. On le transforme en quelque chose qu'on peut évidemment se représenter. Alors, les philosophes sont pas très intéressés par la musique parce que ils ont le sentiment que la musique reste une expérience qui nous ramène à la sensorialité brute, mais qui nous élève pas forcément. Alors je pense que de tout à fait le contraire, mais en fait on peut avoir tous les paradoxes. Les enfants peuvent avoir des gouttiottes, effectivement, mais on peut effectivement être au ras des pâquerettes avec la musique, on peut torturer avec la musique. La musique n'est pas morale en elle-même, mais on peut s'élever aussi avec la musique.
André Manoukian, dans votre livre Les pouvoirs extraordinaires de la musique, il y a de très belles pages sur les liens entre musique et spiritualité.
Quand j'ai appris que le prêtre égyptien dans l'Égypte antique, vous avez 5 minutes,
oui,
à lire, nous voilà déjà en 2000 avant Jésus-Christ, venait tous les jours devant la momie du pharaon pour chanter, pour guider l'âme du pharaon dans l'au-delà. C'est résumé en une seule phrase: pour les Égyptiens, on parlait aux dieux en chantant. Et pour s'adresser aux hommes, on parle de la même manière qu'on leur offrait à manger en faisant des fumigations. Ce qui veut dire que faites gaffe dans le prochain barbecue que vous faites, attention à ce que vous chantez, vous pouvez convoquer des divinités cheloues. Mais cette idée de transcendance dans la musique, de la voix qui s'adresse aux dieux, elle existe aussi dans la musique afro-cubaine aujourd'hui. Les afro-cubains vous disent les cloches, c'est pour les esprits de l'air, la mélodie, c'est les esprits de l'air, et puis les percussions, les tumbas, c'est les esprits de la terre. Il y a toujours eu le premier musicien, c'était le sorcier dans les tribus premières, il s'adressait aux esprits et il était l'intercesseur.
Hervé Platel.
Et d'ailleurs, en faisant référence à ces aspects ethnomusicologiques, Claude Lévi-Strauss était un passionné effectivement de musique, prenait souvent la musique comme référence à sa démarche méthodologique d'ethnologue, et il considérait qu'en sciences humaines, le jour où on aurait découvert les mystères de la musique, peut-être qu'on serait arrivé au bout d'un chemin.
Alors ce matin, nous évoquons l'écoute, mais également la pratique de la musique. André Manoukian, vous écrivez que la pratique instrumentale, je vous cite, est un corps à corps, un duel à la fin duquel il ne doit y avoir qu'un seul vainqueur, la musique. La pratique d'un instrument exige un rapport quasi charnel avec lui.
Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une professeure de piano, j'avais 12 ans, elle s'appelait Madame Bellicard, et avant j'en avais une autre, et puis quand je suis allé voir cette dame, je suis resté 6 mois sans prof, elle m'a dit joue-moi quelque chose, j'avais travaillé tout seul la toccata de Bach, et j'étais trop fier, et là elle me dit arrête, tu vas casser mon piano, j'ai fait what ? Elle me dit chaque note que tu fais c'est comme une balle qui rebondit. Elle était gourmande, il y avait toujours des bonbons sur son piano, et c'est elle qui m'a initié à la sensualité de la musique, oublier la dimension sensuelle de la musique, c'est encore une fois, vous lui enlevez la moitié de sa substance. Et le piano, c'est compliqué parce que entre la corde qui vibre et le doigt du pianiste, il y a toute une mécanique hyper sophistiquée. Alors que le violoniste, lui, il a déjà son instrument contre lui, son corps est le prolongement de la caisse de résonance. Avec son doigt, il peut vibrer, avec son archet, il frotte, il pousse, il tire, excusez-moi, je m'emballe, mais je veux dire, on cherche à imiter toujours la voix avec ce fameux vibrato. Il y a des instruments qui sont plus proches de ça, mais en tout cas, dans l'organologie, l'histoire des instruments de musique, on a toujours cherché à amener, à aller au plus près de la voix. Et c'est pour ça qu'on dit le plus beau compliment que vous fassiez à un musicien, c'est il fait chanter son instrument.
Hervé Platel.
Alors, ce qui est intéressant sur l'histoire de notre relation humaine à la musique, c'est qu'on peut trouver des traces préhistoriques d'activités musicales. Et je vous invite à aller pas très très loin, donc dans le Pays Basque, dans les grottes d'Istouritz, vous pourrez effectivement voir des instruments de musique préhistorique, des flûtes, alors qui datent de 6000, 7000 ans. Donc, et aussi, alors quelque chose de tout à fait étonnant, vous pourrez aller visiter dans la grotte des stalactites, pour lesquels vous voyez des impacts, c'est-à-dire les hommes préhistoriques ont choisi en fin de compte ces stalactites pour leur son. Et on n'a pas d'enregistrement de la voix des hommes préhistoriques et de leur chant, mais par contre on peut reproduire effectivement ces sonorités, et c'est tout à fait passionnant aussi pour les acousticiens de s'apercevoir même à l'endroit où en fin de compte où les hommes préhistoriques faisaient des peintures, et bien en fait ces endroits ne sont pas choisis par hasard d'un point de vue acoustique, parce qu'elles ont des signatures acoustiques tout à fait intéressantes.
Qu'est-ce que les instrumentistes comme André Manoukian ont en plus par rapport aux simples mortels comme moi, incapables de jouer du moindre instrument en dépit de multiples et piteuses tentatives? Qu'est-ce qu'ils ont en plus, Hervé Platel?
Alors, ils ont. Alors, certains ethnomusicologues, chercheurs ont dit bah oui, en fin de compte, la musique, elle est dans toutes les civilisations humaines parce que c'est un avantage pour la survie. Alors, peut-être que les musiciens ont un charme, ont quelque chose qui font que, évidemment, en tant que partenaire sexuel, ils seraient plus intéressants. Alors, c'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse très sérieuse, évidemment. Ouais. Même si la figure du guitar-héros reste encore dans les fantasmes et dans les images. Mais au-delà de cette plaisanterie, clairement, il y a des études très sérieuses qui montrent, dans toutes les cultures humaines, que là, on en revient à la voix, de nouveau, c'est que qu'est-ce qui est le plus similaire dans les productions musicales? Eh bien, ce sont les berceuses, les chants des mères à leurs bébés pour arriver, en fait, les chants de maternage pour arriver à calmer les bébés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est vraiment commun.
Hervé Platel, le cerveau musicien, le cerveau de l'instrumentiste, se construit-il au fil des apprentissages ou bien existe-t-il des prédispositions génétiques? Dit autrement, faut-il être doué pour faire de la musique? Est-ce un don transmis génétiquement ou est-ce le fruit d'un très long apprentissage, des milliers d'heures et des milliers d'heures à jouer d'un instrument, à écouter de la musique?
De toute évidence, ce sont les deux paramètres qui comptent. C'est-à-dire que vous devez être équipé biologiquement. Et ça, c'est aujourd'hui, on a vraiment des évidences. Il n'y a pas un gène de la musique. Mais par contre, il y a donc des particularités, des phénotypages. Et notamment, on a dans nos gènes les mêmes gènes que, en fin de compte, les oiseaux chanteurs. Donc, qui nous permettent effectivement de comprendre la mélodie, la hauteur. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut être équipé biologiquement. Et on voit bien que certaines personnes, malgré une exposition à la musique dans la petite enfance, ne vont pas forcément développer correctement une sensibilité, une perception de la musique. Après, devenir musicien, c'est un dur labeur. C'est comme pour toute chose. Si vous voulez faire du sport, vous pouvez être plus ou moins naturellement doué, mais il va falloir s'entraîner. Clairement, les milliers d'heures d'entraînement donc d'un musicien, ça se voit dans son cerveau. Quand on a fait des études de neuroimagerie, qu'on a comparé le cerveau des musiciens et des non-musiciens, on voit que le cerveau du musicien, il a l'inscription de ses heures d'entraînement et une modification de son cerveau avec ses heures d'entraînement.
André Manoukian.
Moi, je dirais que c'est comme la pratique de la montagne. J'ai eu de la chance. Moi, c'est quand même une affaire d'initiation. Moi, c'est mon père qui m'a initié. Quand j'avais, il y a toujours eu un piano à la maison. Il était tailleur pour dames et quand il rentrait du magasin, il jouait les inventions de Bach, mais il les jouait mal. Ça, c'est super important parce que tout d'un coup, pour moi, c'était prenable. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec mon ami Jean-François Zigel que je viens de quitter, je l'ai laissé. Au Sable d'Olonne, on a fait un duo hier d'improvisation. Très souvent, on dit aux gens, et très souvent à la fin, on a tous les gens qui viennent et qui nous disent « Voilà, moi j'ai été dégoûté par le solfège. » Alors, moi je dis pas mal de choses. Apprendre le solfège à un gosse avant qu'il touche son instrument, c'est aussi débile que si vous dites à votre enfant qui vient de naître, t'as pas le droit de parler, je te parlerai pas tant que tu ne sauras pas lire ou écrire. Il y a eu une inversion complètement perverse à la fin du 19e siècle dans l'enseignement de la musique, où on a tout axé sur l'écriture, parce que à la fin du 19e siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait un patrimoine. Auparavant, on jouait pas la musique des morts. Exalter le patrimoine, c'est formidable, sinon on serait passé à côté de Beethoven, de Mozart, de Bach. Bach a été oublié pendant un siècle, et c'est Mendelssohn qui va le rechercher. Mais dans la pratique de l'enseignement musical, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de résultats auprès des enfants quand on les fait jouer. Parce que je vous rappelle juste un truc, on dit jouer de la musique, allô, allô, jouer. C'est un jeu. Quand on dit l'enfant Mozart composé à l'âge de 3 ans, mais bullshit total, il cherchait les notes qui s'aiment sur son clavecin. Et c'est son père qui notait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour mettre ton gosse sur Instagram. Donc, je veux dire, si on revenait à une pratique beaucoup plus ludique de la musique, je pense qu'on aurait beaucoup plus de résultats. Combien de gens ont été, encore une fois, dégoûtés de l'instrument ?
Hervé Platel, André Manoukian parlait des enfants. Est-ce que la pratique de l'instrument est associée aux performances scolaires ? Est-ce que les enfants qui jouent du violon, de la trompette, du piano, de la batterie, est-ce qu'ils ont, par exemple, un vocabulaire plus riche ? Est-ce qu'ils savent mieux lire ? Est-ce qu'ils apprennent plus facilement une langue étrangère que la moyenne des élèves ? Que disent les études scientifiques à ce sujet ?
Alors les études internationales, et j'insiste sur le côté international parce que quel que soit en fin de compte les types de conservatoires, mais c'est important aussi de souligner que la plupart de ces études ont pour défaut d'avoir pris comme référence d'apprentissage le conservatoire. Et donc on en revient à l'effet solfège. Et dans ce que je vais dire, il y a aussi potentiellement l'effet solfège qu'il faudrait pouvoir retrancher ou en tout cas mettre à part. Alors ce que l'on observe, c'est que les enfants autour de 6-7 ans qui vont au conservatoire, donc par rapport à des enfants qui n'ont pas ce type de pratique, eh bien, ils vont avoir une augmentation de leur performance sur la mémoire de travail, la mémoire immédiate, la capacité à manipuler des informations de manière temporaire, une augmentation des capacités d'attention, des capacités de concentration. Donc, ils ont des capacités, effectivement, d'apprentissage qui vont être un peu boostées. C'est pas que ça les rend plus intelligents, parce qu'on a dit des fois, bon, la musique, ça rend les enfants plus intelligent. Alors là aussi, je vais reprendre le terme d'André, bullshit. Donc non, c'est pas vrai. C'est important pour, en fin de compte, capitaliser et, en fin de compte, booster certains types de mécanismes qui sont importants, qu'on va pouvoir transférer chez les enfants pour les apprentissages scolaires de manière générale. Mais ça les rend pas plus intelligents dans l'absolu. Puisque, quand on regarde les musiciens d'âge jeune adulte, et tous les musiciens d'âge jeune adulte sont pas plus intelligents que les raids. Bon, voilà.
Bienfaits de la pratique instrumentale chez les enfants. Qu'en est-il des bienfaits de l'écoute de la musique dès la maternelle, par exemple, ou dès la crèche ? Qu'est-ce qu'on sait ?
Alors, il y a beaucoup de bénéfices, et là aussi, en fait, ces bénéfices, petit à petit, les études ont permis un petit peu de serrer les différents mécanismes qui étaient importants. Alors, j'évoquais le solfège et l'effet solfège. L'effet solfège, c'est parce que apprendre, effectivement, à lire une partition de musique, c'est apprendre un langage, et donc on va, et là aussi, stimuler les mécanismes, en fin de compte, de manipulation viso-spatiale, donc de l'information. Ok, mais si on fait pas de solfège, est-ce qu'on a quand même des bénéfices, oui, et notamment le fait de faire de la musique ensemble. Ça, c'est très important, et il y a des études assez récentes qui ont montré que les enfants qui pratiquent la musique en groupe vont augmenter non seulement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi leur capacité d'empathie et de cognition sociale. Autrement dit, faire de la musique ensemble, c'est être attentif à ce que ressent l'autre, et surtout à ce que fait l'autre, être synchrone avec l'autre. Et si je suis synchrone avec l'autre, ou je fais des efforts pour l'être, en tout cas, je vais stimuler des mécanismes qui me permettent aussi d'être mieux à l'écoute de ce que ressent l'autre et de ce que pense l'autre.
André ?
Moi, j'ai même une toute petite hypothèse perso, c'est que je pense que la démocratie moderne est née dans les pays du Nord, autour du 15e siècle, les pays protestants essentiellement, parce qu'il y avait la pratique de la chorale, du chanter ensemble. Chanter dans une chorale, ça veut dire que vous êtes obligé d'écouter votre voisin qui chante une voix différente que la vôtre pour vous accorder à lui. Chacun s'exprime selon j'allais dire, sa mission, mais en écoutant les autres. Et une chorale produit un tout qui est supérieur à la somme des parties. Il y a même cet exemple dont je parle souvent, qui s'appelle la Quintina. Le 15 août, quatre sardes sortent la Vierge Marie. Quatre hommes avec des voix graves, s'ils sont bien accordés, eh bien, ils créent une harmonique et on dit que c'est la voix de la Vierge. Donc, on va même créer, j'allais dire, non seulement du être ensemble,
du comment,
mais du jouir ensemble, du avoir du plaisir ensemble.
Bonjour Camille Poux-Jalaguier.
Bonjour Ali.
Vous êtes responsable de la médiation culturelle à la direction de la musique et de la radio. Que propose la Maison de la Radio et de la musique à destination des jeunes publics?
Vous l'avez dit Ali, maintenant ça s'appelle la Maison de la Radio et de la musique. Donc ça propose plein de choses, ouais. Et c'est super de pouvoir en parler, ouais. Ici parce que c'est...
En cette période de vacances.
C'est les vacances et puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de transversalité, ouais. Entre les deux bizarrement. Et vous parliez de chorale. Figurez-vous que le 20 avril, donc c'est samedi prochain pendant les vacances scolaires, il va y avoir un concert participatif qui s'appelle « Reprendre son souffle ». Et en fait, c'est pas la peine de savoir chanter, mais là, c'est l'occasion de passer derrière le rideau. Et on a la chef de chœur qui va pouvoir diriger tout le monde, par exemple, pour chanter. Et ce qui est bien avec le chant par rapport aux autres choses, aux autres instruments, c'est que tout le monde l'a sur soi. Donc on peut pas dire que ça exclut socialement quelqu'un qui pourrait ne pas avoir la chance et l'occasion d'apprendre la musique.
Ça sera le 20 avril à la Maison de la Radio. Ouais. À quelle heure?
Là, je sais pas quelle heure
il
c'est.
Il faut regarder sur Maison
ouais,
de la Radio.
Je pense
maison
que c'est vers 16h. Ouais, pour les heures, je suis désolée. Et après, il y a des concerts, par exemple, de la Petite Sirène. Il y a plein de choses qui existent. Et il y a deux catégories de populations qui peuvent être accueillies à Radio France. Il y a les scolaires. Mm-hmm. Donc, c'est toute l'année. C'est pas trop pendant les périodes scolaires. Et les individuels avec les familles qui sont accueillis soit à des générales de concerts, mm-hmm. soit à des avant-concerts, soit à des ateliers musicaux avec l'orchestre de la radio, de la philharmonique, le national. Mm-hmm. Et en fait, ils sont accueillis en petits groupes mm-hmm. participatifs. Pas besoin de savoir lire ou jouer un instrument, c'est plus de l'éveil musical. Et puis, on a l'occasion également de visiter l'auditorium de Radio France, le 104. Donc, tout ça, c'est...
C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal.
C'est pas mal du tout. Où est-ce qu'on peut se renseigner, Camille?
Maison de la radio et de la musique.fr.
Hervé Platel, il faudrait généraliser, intensifier les ateliers musicaux dès la crèche, dès la maternelle.
Dès la crèche, clairement oui, parce que je pense que en fait, évidemment à la crèche, il n'est pas question que les bébés, ouais. Les petits apprennent à jouer d'un instrument de musique. Hein, on n'est pas à ce niveau-là, mais aujourd'hui il y a le cumul de pas mal de travaux donc expérimentaux et notamment des études assez fantastiques, magnifiques, qui ont été faites sur l'impact de la musique chez les bébés prématurés et de l'écoute de la musique chez les bébés prématurés et qui montrent non seulement que ces bébés, grâce à la musique, vont avoir une maturation cérébrale qui va retrouver une trajectoire de normalité, mais c'est pas juste une vue de l'esprit, car en fait, en neuroimagerie, il y a quelques études récentes qui ont montré que c'était tout à fait le cas. Quand on regarde la maturation du cerveau, en fait, y a la musique à ce pouvoir d'aider en fait à la maturation cérébrale. Et je pense que pour les bébés à la crèche, l'idée qu'on en a, c'est d'essayer véritablement d'apporter quelque chose, des petits ateliers, des petits exercices musicaux, des simplement des moments d'écoute. Mais il faut bien choisir évidemment ce qu'on écoute, etc. et de la manière dont on le fait. Mais si c'est bien fait, c'est vraiment une chance pour réduire les inégalités sociales.
André Manoukian, vous devriez vous mettre aux ateliers, à la crèche, les ateliers musicaux.
Oui, parce que moi, je chante fou comme un jambon, Camille. Je ne vous ai pas dit, donc j'irai bien le 20 avril.
Ah, voilà,
merci beaucoup, Camille Poux-Jalaguier. Bon anniversaire à votre fille, Marianne.
Ouais. Et justement, Marianne qui est née grand prématurée, et quand j'ai vu en soins intensifs qu'on lui mettait de la musique, ouais. Je me suis dit, mais c'est vraiment le moment. Et donc, on nous a expliqué effectivement le développement neuro-psychologique chez les grands prématurés. Donc, bonne nouvelle.
Bon anniversaire à votre merci. Fille. Allez, dans quelques instants, continue d'explorer les pouvoirs extraordinaire de la musique. Ce sera juste après avoir écouté Aretha Franklin, A Natural Woman, un titre sorti en 1967. André Manoukian fréquentait déjà les surbooms du quartier
c'est
latin.
C'est vrai.
10h30 sur Inter.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. So
Aretha Franklin interprétait Natural Woman.
Qu'est-ce qui nous sauve quand tout va mal? La musique?
Grand bien vous fasse.
Et sur le Titanic, ils ont joué jusqu'au bout, hein. Ça leur a bien réussi. Hein.
Sur France Inter.
Il y a une question pour vous, André Manoukian. Ce matin, on s'intéresse au pouvoir extraordinaire de la musique en compagnie donc du neuropsychologue Hervé Platel. Pourquoi est-ce que quand j'écoute Aretha Franklin, Natural Woman, j'ai les poils qui se dressent? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physiologique, psychique, physique? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, il se passe l'engagement total de la chanteuse Aretha Franklin. C'est pas un hasard si cette musique, on l'appelle de la soul music, la musique de l'âme. Il se passe qu'il y a une ferveur, encore une fois, religieuse dans ce chant, même si les paroles sont profanes. D'ailleurs, je rappelle que la soul, à la base, c'est le gospel avec des paroles profanes. Ray Charles a failli se faire excommunier par sa frangine quand il se cherchait, puis tout d'un coup, ils ont tous appris à l'église. Mais l'église, chez les Afro-Américains, c'était encore plus fort que de la spiritualité. C'était simplement le seul espace où ils se retrouvaient et où ils chantaient finalement toutes leurs douleurs. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il s'est retrouvé plus parce que il s'identifiait avec le peuple hébreu en esclavage dans l'Égypte. Donc il y a un engagement qui est total. Il y a une langue aussi parce que la langue anglaise est quand même une des langues les plus musicales du monde. Vous ajoutez à ça la ferveur religieuse plus la rythmique africaine, vous obtenez une des musiques les plus riches du monde. Et dans ce cas-là, j'allais dire, la musique a atteint votre épiderme, cher Ali, parce que toute musique est censée vous provoquer une érection des poils. Enfin, voilà.
Des poils. Des poils. Hervé Platel.
Sur le, on va dire l'extase musicale, la chair de poule musicale, il y a des travaux en neuroimagerie qui ont bien montré les mécanismes derrière, c'est-à-dire vous allez avoir une activation des circuits du cerveau qu'on appelle les circuits de la récompense, donc avec libération,
dopamine,
ocytocine, etc. Mais en fait, pourquoi la question quand on pose donc aux participants, mais pourquoi cette musique elle vous provoque le frisson? Eh bien, souvent, en fait, on voit que dans 80% des cas, c'est un effet mémoire, un effet mémoriel. En fait, le juge, c'est ce que vous ressentez perceptivement et comment vous anticipez ce qui va se produire. Donc, souvent, les gens disent « Ah bah oui, cette musique, je la connais très très bien ». C'est pas que ça leur rappelle forcément un moment heureux de leur vie. Ils disent « Je la connais très très bien ». Et puis là, à un moment, justement, il y a les violons qui arrivent et puis ils montent « Ah oui, j'adore ça ». Ou il y a le break de batterie, il y a le solo de guitare. Et vous savez que quand le DJ vous arrête la musique juste avant le passage préféré, c'est très désagréable. Eh bien, là, vous n'avez pas votre shoot de dopamine, mais en fait, on pourrait faire une métaphore aussi avec l'art culinaire. C'est-à-dire que vous connaissez bien un plat, ou on va dire une pâtisserie, là, vous la voyez, et vous avez le souvenir de ça, et vous attendez à avoir le goût, et là, vous goûtez, et vous retrouvez ce goût que vous aviez en mémoire, et ben pour la musique, vous retrouvez effectivement cette sensation que vous avez en mémoire, et c'est très plaisant.
C'est André Manoukian, une pâtisserie musicale qui provoque un shoot de dopamine dans votre organisme.
Ça y est, j'ai les points
l'introduction,
du docteur, là,
l'introduction
ouais.
Du Tannhauser de Richard Wagner. Pourquoi est-ce que cette musique vous transporte, André Manoukian?
Alors là, on est sur la fin de l'intro, le moment le plus, mais c'est un long chemin pour arriver jusque-là. C'est un chemin qui commence par des accords, je dirais une succession d'accords majeurs qui s'enchaînent les uns avec une majesté incroyable. Et en même temps, Wagner invente une forme une nouvelle cadence harmonique. Ce dont vous parliez, Hervé, quand vous disiez, on s'attend à ce que on a mis en mémoire que là il allait y avoir tel changement. En réalité, même si quand vous l'écoutez pour la première fois, le musicien vous emmène. Et il y a des rapports, encore une fois, physiques entre les notes. L'harmonie, c'est quoi? C'est une succession de tensions et de résolutions. Donc on est soulagé tout d'un coup quand on a une résolution. Les Allemands appellent do mi sol, do les notes du repos, puisque c'est la fin. Et puis ré fa la, autour, si, c'est les notes de la tension. Donc le musicien joue avec un art consommé entre vous tendre, justement, c'est ce que fait le DJ aussi quand il arrête, ah, tout d'un coup vous êtes suspendu, et puis tout d'un coup vous soulagez. On ressent ça physiquement parce que ce sont les notes qui parlent. Et quand Wagner arrive et qu'il introduit de nouvelles règles et qu'il vous emmène encore ailleurs que ses prédécesseurs, puisque c'est aussi le rôle de... Bah, il vous ouvre des chemins, et ceux-là sont particulièrement éternels, je dirais.
Est-ce que, comme le disait Woody Allen, dans Meurtre mystérieux à Manhattan, écouter Wagner, ça vous donne envie d'envahir la Pologne?
Je la faisais avant, celle-là, mais je la fais plus maintenant.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas ce qu'a écouté Poutine, mais putain, il aurait mieux fait d'écouter Dorothée.
Je voulais vous amener sur ce terrain-là, d'ailleurs, André. Tiens, Hervé Platel, quand je vous ai demandé de choisir une musique qui contribue à votre bien-être, évidemment, il y en a des milliers et des milliers, vous avez choisi, alors là, ça me ramène à 1982, la bande originale d'E.T. de Steven Spielberg, composée par John Williams. Alors, comme le disait tout à l'heure André Manoukian, là, j'ai les poils en érection. Pourquoi avoir choisi ce thème d'E.T. de John Williams?
Bah, je sais par expérience que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien quand on fait des expériences justement sur le plaisir musical. Les musiques de films ont un statut particulier. Alors, globalement, même des musiques a priori qui sont pas rattachées à des images ont le pouvoir dans votre cerveau de générer des images. Vous écoutez une musique de Bach, même si vous n'êtes pas un spécialiste de Bach, ben en fait, ça va générer dans votre cerveau une activité dans les régions pariétales du cerveau, qui sont des régions associatives visuelles. Donc la musique donne envie du mouvement, donne envie effectivement de se représenter le fait que ça bouge, que ça monte, que ça descend, etc. Là, cette musique de John Williams, évidemment, on a tous en tête Elliot sur son vélo, en train de s'envoler, et il a bien trouvé effectivement la manière de construire sa mélodie pour que ça nous rappelle cette idée d'élévation quand on l'entend. Donc clairement, alors pour reprendre ce que disait André, alors moi bien sûr j'ai insisté sur l'effet mémoire. Là on le ressent tous, hein, cet effet mémoire avec E.T. En plus c'est associé à quelque chose qu'on connaît bien. John Williams déjà, il n'a pas composé que de la musique tonale. Il a une palette qui est étonnante. Et aujourd'hui c'est clair que la musique de film, c'est la musique contemporaine, la musique savante d'aujourd'hui. Car la musique de film, c'est ce qui nous a permis en fin de compte d'augmenter notre culture musicale grâce à l'imprégnation même avec de la musique atonale. Et Kubrick a fait ça en utilisant certaines musiques, mais en définitive, c'est vrai que on augmente notre culture grâce, en fin de compte, aussi au cinéma, notre culture musicale grâce au cinéma.
Immense succès des ciné-concerts à travers la France. Tiens, Hervé Platel, cette chanson des Beatles vous est chère? Alors pourquoi ce choix de dire comme The Sun? Expliquez-nous un petit peu.
C'est clair, on parlait de la mémoire et des périodes de vie. Hein. Donc
la mémoire autobiographique, épisodique.
Et tout à fait, avec des périodes de vie. Alors je ne sais pas si cette chanson me ferait sortir du coma si un jour j'étais dans le coma, mais elle
ne vous le souhaite pas.
Elle pourrait y contribuer. Il y a des témoignages tout à fait étonnants de personnes qui sont sorties du coma donc en entendant une musique qui avait un statut particulier. Pour eux, je raconte souvent cette anecdote de ce boulanger anglais là qui avait fait un arrêt cardiaque dans le coma et en fait la radio passe et il entend Satisfaction des Rolling Stones. Et quand il se réveille, il dit en entendant cette musique, je me suis revu. Il avait une vingtaine d'années en 1965, l'énergie que je pouvais avoir et Satisfaction des Rolling Stones, c'était le premier 45 tours qu'il avait acheté. Et ça, c'est pas anecdotique, en fin de compte, ces associations-là. Here Comes the Sun, je vous le recommande. Alors, George Harrison, Lennon McCartney, je vous le recommande pour commencer la journée, pour vous éveiller, parce que le soleil arrive et c'est la vie qui arrive.
Alors, voilà une chanson des Beach Boys qui pourrait contribuer à me faire sortir du coma. God Only Knows des Beach Boys, c'est la chanson préférée de tous les temps de Paul McCartney, André Manoukian, à juste titre.
Alors, Ce qu'on entend là, c'est que pour la première fois, on est en train de sortir, on est dans l'époque du rock. Le rock, c'est quoi? C'est la musique la plus populaire des années 60, mais c'est trois accords. Et tout d'un coup, la même chose, j'allais dire, ce qui caractérise à la fois les Beach Boys et les Beatles, c'est qu'il y a des harmonies extrêmement riches qui arrivent, des accords. D'ailleurs, les Beatles, s'ils n'étaient pas nés à Liverpool, n'auraient jamais été les Beatles. S'ils étaient nés à Londres, ça ne serait pas les Beatles, puisque Liverpool était la seule ville d'Angleterre où on allait. Il y avait des concours de ménestrels depuis le Moyen-Âge. Donc, il y a ça aussi que j'adore, moi, dans la musique, c'est retracer le parcours des hommes. Ils naissent dans cette cité ouvrière, ce port, mais en même temps, ils sont imbibés, les Beatles, de la musique des ménestrels. Et leur musique, c'est ça. Et ce qu'on vient d'entendre des Beach Boys, c'est pareil, des harmonies assez sophistiquées, un petit peu folk, avec une rythmique moderne et psychédélique.
Écouter de la musique active le cerveau de la récompense, déversant un cocktail de substances bienfaisantes dans notre organisme, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Par exemple, quand on écoute ça. Célèbre chanson de Queen, et nous accueillons Camille Crenier de La Terre au Carré. Bonjour Camille. Alors, on vous accueille parce que vous avez fait le marathon de Paris dimanche. 3h44, on peut applaudir Camille Crenier.
Et 2 secondes.
3h44 et 2 secondes. Et en passant dans notre bureau ce matin, Camille, vous m'avez dit qu'il vous était quasiment impossible de courir sans musique. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de musique, et en particulier la musique de Queen,
ouais,
et de musique entraînante pour
parce que, alors, il y a deux écoles, hein. Y a des gens qui courent vraiment, ils disent je peux pas, ça va modifier mon rythme. Moi, ça me met vraiment dans une sorte d'univers hyper entraînant, justement, hein. Je fais que des chansons très entraînantes, très très variées aussi. Ça me met dans une sorte de bulle qui me permet d'avancer, de me sentir bien, de, vous parliez tout à l'heure de la mémoire, de repenser aussi à certains moments avec des proches ou seuls, etc., qui me fait du bien et qui me permet de tenir mentalement.
Est-ce que ça vous permet aussi de réduire la douleur? Moi, je sais que quand je cours, j'ai besoin de ces musiques entraînantes, et ça me permet de surmonter la douleur quand ça commence un petit peu à faire mal.
Ouais, je pense que ça permet de booster. Il y a un truc, ben là, j'étais vers le 36-37e kilomètre et j'ai du Strauss qui est arrivé dans mes oreilles, la marche de Radetzky. Et là, boum, je repars en fait. J'étais en train de souffrir et en fait, ta-la-la, 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 ta-ta. Et ben ça permet, n'empêche, de se remettre dedans, et je pense que ça aide, ouais.
Et qu'est-ce qui se passe, Hervé Platel, dans le corps et dans le cerveau de Camille Crenier quand elle écoute ces musiques entraînantes?
Ouais, l'effet jogger, en fait, je trouve que ça résume tout. Ça résume tout parce que c'est à la fois donc quelque chose qui est vraiment culturel de la musique, c'est l'effet mémoire, c'est ce dont on a parlé, qui est très personnel, et en même temps, bah, la musique, elle a un effet universel, et notamment sur sa capacité à, je dirais, vous entraîner, donc d'un point de vue moteur, même chez les tout petits, bon, bah, il y a une musique un petit peu rythmée, on voit qu'ils peuvent se dandiner en rythme, donc on a une connectivité très privilégiée entre nos régions auditives et nos régions motrices, et en fait, on parle de boucle auditivo-motrice. Clairement, vous entendez une musique pulsée, vous allez avoir tendance à vous synchroniser dessus. C'est le principe qu'on utilise aussi pour les musiques de relaxation, où on va descendre en fin de compte le tempo. Pour les joggeurs, bah, il faut le maintenir. Ça a un effet aussi, on détourne l'attention potentiellement, oui. Ça c'est important, hein, de la douleur. On a le petit shot de dopamine en plus parce qu'on prend plaisir. Bon, bah, ça réduit aussi, je dirais, la sensation douloureuse. Donc on a un petit peu le package complet. Hein.
C'est un dopant naturel.
Voilà.
C'est un dopant naturel. Merci Camille Crenier d'être passé. On vous retrouve évidemment à
14h. Tout à l'heure, à 14h. Et ce soir, dans les petits bateaux aussi.
La Terre au Carré, c'est quoi le thème?
Aujourd'hui, on fait une émission sur la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est bon aussi pour le climat?
Et on vous retrouve évidemment également dans les petits bateaux. Merci Camille.
Merci à vous.
Courez Camille, courez Camille.
10h47, l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Julien Bisson.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut! Merde!
Mon cher Julien, la musique, eh bien, elle détient des bienfaits pour les enfants.
Eh oui, hein, évidemment, ce n'est pas moi qui le pense, c'est la recherche scientifique qui nous l'apprend. Hervé Platel l'a rappelé, pratiquer très tôt la musique va aider les enfants à développer leurs capacités cognitives, que ce soit à travers les comptines, qui permettent d'exercer leur mémoire des mots et des gestes, ou plus tard avec les chansons et le solfège, qui vont améliorer leur capacité d'abstraction et leur vocabulaire. Des études scientifiques ont même montré, on l'a rappelé, qu'avec ces nouveaux chemins neuronaux, un enfant qui pratiquait une activité musicale serait plus à même même de réussir à l'école, d'apprendre des langues étrangères, d'être plus sociable et d'avoir une meilleure estime de soi-même, sans même parler de la créativité que l'expérience de la musique, avec tout ce qui peut servir d'instrument de fortune, peut susciter.
Donc c'est un grand oui pour encourager nos enfants à faire de la musique.
C'est un grand oui. Enfin, pour eux, en tout cas. C'est-à-dire pour leurs parents, c'est pas forcément la même limonade. Bon, je passe très vite sur la période des comptines qu'il faut répéter à tue-tête pendant toute la journée. Résultat, on s'est tous retrouvés à faire la queue quelque part en se demandant où sont passés les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles, sans arriver à se l'enlever de la tête. Tiens, je vous invite d'ailleurs à la chantonner chez vous. Ça,
merci,
c'est cadeau.
Merci, Julien.
Mais le pire, ce sont les parents d'enfants qui continuent la musique chez eux, passé l'âge de 5 ans. Parce que dans ce cas-là, c'est pile je gagne, face tu perds. Si votre enfant joue très bien du piano, par exemple, vous allez vous taper la flûte enchantée en boucle pendant tout le printemps, jusqu'à en devenir ma boule. Mais s'il en joue très mal, bah là, vous allez devoir supporter une version massacrée du générique de Fort Boyard en rêvant d'étrangler un chaton pour couvrir le bruit. Mais bon, j'exagère un peu, pardonnez-moi André, je sais qu'il y a parfois pire que l'enfant qui joue de la musique, il y a l'enfant qui en écoute.
C'est-à-dire
bah, il existe un risque non négligeable qu'en grandissant, votre enfant ramène un jour à la maison des tubes qui ne soient pas forcément du David Bowie et que, pour des raisons diverses et variées, vous aurez du mal à supporter. Il y a les chansons qui font simplement saigner des oreilles pour leur qualité musicale discutable, il y a les tubes formatés pour ados qui fleurent un peu trop fort l'opération marketing, et il y a aussi les titres aux paroles contestables, violentes ou misogynes qui vous font demander comment votre bout de chou de la semaine d'hier s'est transformé en petit monstre, copiant les mimiques de Jules en répétant qu'il va faire des choses pas jolies jolies à votre mère sur la canebière.
Alors que faut-il faire si votre enfant a des goûts de chiottes, il faut le dire?
Eh bien déjà dédramatiser un bon coup en vous rappelant que vous aussi, vous n'écoutiez pas que de la bonne musique à l'adolescence, Ophélie Winter, elle est pour toi celle-là, et que chaque génération a succombé à une panique morale devant les hits de l'époque, qu'ils aient pour nom les Beatles, Led Zepp, les Clash ou NTM. Et puis vous dire que si vous voulez que votre enfant diversifie ses goûts musicaux, c'est peut-être à vous de l'aider et de l'éduquer. De ce côté-là, hélas, on ne peut pas tous avoir un André Manoukian à disposition, et c'est un tort, notez-le, si jamais une IA personnalisée devait être inventée, moi je voudrais une Manoukia, qui me conseillerait des morceaux d'une voix enjouée. Ce matin, Shakira va te déclencher une ouverture de chakra, ou ce soir, c'est Mylène Farmer qui va te donner une érection capillaire. Mais faute de Manoukia pour votre môme, il ne vous reste plus qu'à profiter de chaque trajet en voiture pour éduquer leurs oreilles à ce qui, pour vous, très modestement bien sûr, constitue la catégorie du bon goût musical. Mais dépêchez-vous, selon une étude anglaise sur 2000 parents, votre influence est maximale entre l'âge de 8 et 10 ans. Passé ce stade, c'est fini. Il vous restera plus qu'à les emmener en festival pour essayer de leur faire oublier un peu leur tocade musicale du moment, ou bien acheter un casque dernier cri, vous savez, ceux avec coque intégrale et réduction de bruit. C'est pas pour lui, hein. C'est pour vous cette fois.
Vous devriez déposer la Manoukia, André Manoukian.
Merci, merci, quel hommage.
Juste, Hervé Platel, toutes les musiques ont-elles le même pouvoir? Est-ce qu'écouter du Joule, ça a les mêmes effets que d'écouter du Bach?
Alors, j'aime...
Sans faire de snobisme.
Ouais, non, j'aime pas, en général, essayer de faire des hiérarchies au niveau de la musique. Et d'ailleurs, il y a des très jolis travaux de collègues en psychologie sociale qui ont montré que en interrogeant des personnes qui sortent de concerts de musique classique ou de concerts métal, en fait ils répondent la même chose, c'est-à-dire pourquoi vous y êtes allé, comment vous vous sentez en sortant, bah oui je me sens avec un regain d'énergie, j'ai la patate, je vois les choses de manière plus positive, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire, mais clairement notamment dans des applications thérapeutiques on peut pas balancer n'importe quoi. Et puis pour reparler de la cristallisation des goûts musicaux chez l'adolescent, je pense que c'est important, effectivement, parce que c'est une période d'identité, de recherche d'identité. C'est important, à un moment donné, d'essayer de les emmener vers d'autres territoires et d'avoir une curiosité toute sa vie. Et ça, c'est pas si simple d'un point de vue pédagogique.
Tous les épisodes de Ma vie de parent, de Julien Bisson, à partager sur l'appli Radio France. Et Julien, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du très bel hebdomadaire Le 1 Hebdo, qui fête ses 10 ans.
Et oui, c'était hier, le jour pour jour, l'apparition, le 10e anniversaire de l'apparition du tout premier numéro.
Et donc cette semaine, dormir, où est passé notre sommeil, que je file à André Manoukian.
Combien vous fasse.
Bémol, bémol.
Ali Rebéi.
Tu sais ce que c'est qu'un bémol, tête de con.
Sur France Inter.
Et on continue à s'intéresser aux pouvoirs extraordinaires de la musique en compagnie du neuropsychologue Hervé Platel et avec le musicien, arrangeur, auteur, comédien André Manoukian qui publie Les pouvoirs extraordinaires de la musique. Et nous accueillons l'un des musiciens de notre équipe, il y en a deux. Il y en a un qui est le sosie de Kurt Cobain, qui est guitariste, et Joachim Taïeb, bonjour, programmateur de l'émission. Alors vous pratiquez la guitare depuis une quinzaine d'années et c'est un besoin, vous nous l'avez dit au bureau, un besoin esthétique, physique, spirituel, spirituel, psychologique. Vous ne pouvez pas vous passer de jouer de la musique, de la guitare et d'en écouter.
Bah, j'en fais depuis tout petit de la musique. Bon, déjà, je ne peux pas me passer d'en écouter, mais effectivement, le fait de jouer d'un instrument, en fait, que je me sente bien ou moins bien, c'est comme une espèce de thérapie, quoi. J'ai un besoin viscéral de jouer de la musique, même si c'est pour gratter trois accords, faire un truc ou quoi. Et en fait, quand je suis par exemple en vacances et que j'ai pas mon instrument avec moi, très vite, au bout de quelques jours, je ressens du manque, vraiment.
C'est un vrai manque physique.
Et donc j'avais une question pour vous, Hervé Platel, si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe dans mon cerveau, en fait. Pourquoi est-ce que quand je peux pas jouer, j'ai ce manque, cette sensation de ce malaise, en fait?
Je pense que c'est pareil que pour les sportifs qui s'entraînent. Si vous arrêtez d'un seul coup, bon ben voilà, vous avez le manque qui arrive effectivement. Alors on a dit des fois que la musique c'était comme une drogue. On a parlé effectivement de neurotransmetteurs tout à l'heure. C'est pas complètement faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Je crois qu'il faut être sur une vision intermédiaire. Mais clairement, et ça dépend des personnalités. Il y a des personnes pour lesquelles effectivement la musique est une vraie nourriture spirituelle. Et il y a cette sensation de manque. Donc, dans votre cerveau, on attend le petit shoot, comme il peut manquer de la nicotine dans vos récepteurs. Si vous avez l'habitude de fumer, il vous manque votre petit shoot de musique.
Alors vous, Joachim Taïeb, la musique que vous écoutez sans cesse, c'est ça.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous.
Barbara, ma plus belle histoire, c'est vous.
Ouais, c'est Barbara.
Pourquoi ?
Toutes les chansons de Barbara, parce que Barbara, pour moi, j'ai développé un truc avec Barbara depuis plusieurs années. En fait, c'est la combinaison de tout, de magnifiques textes, d'une interprétation hors du commun, de mélodies fabuleuses. Et puis, il n'y a pas une chanson qui veut rien dire, quoi. Tout est chargé. Et d'ailleurs, dans la tristesse, comme dans la bonne humeur et la joie aussi, parce qu'il y a des chansons de Barbara qui ne sont pas toutes déprimantes. Et non, voilà. Ouais.
Tiens, justement, Clara nous demande pourquoi le fait d'écouter des musiques tristes lui fait du bien quand elle est triste, André Manoukian. Ça peut paraître contre-intuitif.
Non, c'est complètement normal, je dirais. C'est la beauté de la musique. Un compositeur, quand il se fait larguer, il a la chance de faire une chanson triste et avec, il peut faire du pognon en plus. Donc c'est cool. Beethoven a fait la sonate au clair de lune parce qu'il allait pas bien. La musique nous console. Tout à l'heure, Joachim, quand vous disiez que vous l'apprenez, même si que vous soyez gay ou triste,
la guitare.
La guitare, c'est votre compagnon, c'est votre confident. Voilà, on se confie à son instrument et la grâce de la musique fait que quand on exprime sa tristesse en musique, elle vous revient même au gars qui est triste, j'allais dire, elle vous revient et elle vous fait du bien parce que tout d'un coup, il y a comme une espèce de transcendance. Et ce qu'il y a de magnifique dans la voix de Barbara, c'est aussi ce détaché qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle est pas... Elle a l'attitude un petit peu de la crooneuse où elle est un peu loin et en même temps, elle survole son truc et tout d'un coup, on voit une grâce incroyable qui s'élève autour de nous, quoi.
Hervé Platel.
Bah c'est clair que les travaux récents sur le plaisir musical montrent que on a le frisson aussi, on prend beaucoup de plaisir à écouter de la musique triste. Une des musiques les plus citées dans les musiques qui font du bien mais pourtant qui sont très tristes, c'est l'adagio de Barber. Donc l'adagio de Barber utilisé dans le film Platoon, aussi Elephant Man, etc. C'est franchement pas gay, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont une sorte d'extase effectivement et qui aiment beaucoup ça.
Merci beaucoup, Joachim Taïeb. André Manoukian, il est impossible de terminer cette émission sans votre Saint-Père, Jean-Sébastien Bach, le boss. Vous dédiez d'ailleurs votre livre à Jean-Seb, sans qui Dieu serait moins beau. Pourquoi un monde sans Bach serait moins beau?
Pourquoi un monde
sans... C'est évident, évidemment, quand on écoute ce concerto pour deux violons.
Parce que c'est la musique la plus architecturale qui soit. Quand on écoute Bach, on voit des chemins. Son écriture, ce qu'on appelle le contrepoint, c'est quoi ? Vous avez une ligne qui monte, alors à la radio c'est compliqué. Il va mettre un miroir et il va vous jouer en même temps la ligne qui descend. Et puis le miroir, il va le mettre vertical et puis il va faire un losange. Et puis ce losange, il va le rapetisser, il va l'augmenter. Et on se retrouve avec le principe du kaléidoscope. Quand vous entendez Bach, vous avez votre cerveau qui pétille, comme si tout d'un coup il était effervescent. Et cette visualisation est tellement parfaite que ça laisse personne de marbre, quelle que soit sa culture. Rubinstein racontait qu'il a été un des premiers pianistes classiques à aller en Chine, à l'époque où la Chine communiste, où la musique classique était considérée comme de la musique décadente. Il fait son concert, il dit « Je commençais toujours par du Bach, ça me chauffait les doigts, il y avait toujours des gens en retard, puis après j'attaquais Chopin, Liszt, Rachmaninoff. » Les Chinois arrivent à la fin, il leur dit « Alors, qu'en avez-vous pensé ?» Et lui pose la question: c'est quoi le premier morceau que vous avez joué? Alors lui, il était rassé, il dit mais non, mais ça c'est du Bach, c'était pour me chauffer. Et les Chinois lui répondent mais vous savez, en Chine on est très habile de nos doigts, la dextérité on s'en fout, mais par contre la grande musique on aime quoi. C'est le créateur universel. Tous ceux qui sont venus derrière lui n'ont fait que mettre de l'eau dans leur bac. Bach, c'est le taulier, c'est le patron, et c'est un jazzman incroyable, un improvisateur hors pair. Excusez-moi, il faut que je m'arrête, je sais, l'heure passe.
Merci beaucoup Hervé Platel d'être venu dans l'émission. Merci André Manoukian, je recommande vraiment la saine lecture de votre livre, érudit et très plaisant à lire, Les pouvoirs extraordinaires de la musique, chez HarperCollins et France Inter.